enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
D'Esdras, mais le message, les versets ne sont pas affichés à l'écran pour le moment. Où il nous est dit qu'au verset 2, Esdras, chapitre 3, verset 2, je lis pour vous. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Et nous allons voir ce matin que pour reconstruire nos vies, pour reconstruire le temple que nous sommes, vous êtes le temple du Saint-Esprit, avant toute chose, avant de rétablir ça, avant de réparer ça, il faut restaurer d'abord l'autel. Aucune vie ne peut être reconstruite si l'autel de Dieu dans leur vie n'est pas rétabli. Et on va comprendre ça ce matin. Alors on va poser nos Bibles quelques instants. Et on veut prier le Seigneur qui nous parle. Et que par sa puissance, on puisse voir des choses merveilleuses ce matin. Amen. Seigneur, viens bénir, Seigneur, ces instants. Seigneur, viens bénir ta parole. Viens bénir, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, tu es là par ta puissance, Seigneur, pour nous guérir, pour nous soulager, Seigneur, pour faire une œuvre merveilleuse dans notre vie. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, maintenant de bénir et de sceller cette parole dans nos cœurs. Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, pour que nous puissions comprendre cette parole et l'assimiler, la garder dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et juste avant de commencer, j'aimerais demander à tous ceux qui sont là pour la première fois de rester debout. Soyez pas timide, restez debout. Amen. Et on veut vous accueillir. Amen. Comme il se doit dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Rapidement, résumé du premier et du second message. Nous avions vu dans le premier message que nous avions vu l'énoncé de la promesse de Dieu pour son peuple qui avait été prisonnier pendant
70
ans. Et au bout de 70 ans, l'Éternel avait dit, eh bien, je vous sortirai de ce pays. Parce que j'ai des projets de paix et non de malheur. Et j'ai des projets d'avenir et d'espérance. Et c'est ça que Dieu a pour nous quand on sort de l'esclavage. Quand finalement on sort de la captivité. Alors il y a des projets de paix. La semaine dernière, nous avons vu que la restauration était un chemin qui était plus ou moins rapide. Le chemin du bonheur, c'est un chemin. Vous ne sortirez pas d'une réunion totalement guérie tout à coup comme ça maintenant. Si plusieurs vous l'ont dit, ben, c'est pas vrai. Si plusieurs vous l'ont dit, c'est pas vrai. Donc, vous commencez à être heureux. Mais il y a plusieurs étapes qui vont conduire finalement à la plénitude du bonheur. À chaque fois que l'on sort d'une réunion, à chaque fois que l'on sort de la présence de Dieu, oui, on a la joie, oui, on est heureux, oui, on a le bonheur. Mais en fait, ça fait partie du chemin vers lequel nous arrivons pour finalement ne plus revenir vers la tristesse et vers ce qui nous lie et ce qui nous tient dans le passé. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai pas envie que l'église de Christ soit une église qui soit seulement heureuse et bénie à chaque fin de réunion.
Չեմս որ իմ եկեղեցին ամեն հավաքույթի վերջում մենակ ուրախ լինի։
Mais je veux que ce qui est bâti, ce que nous sommes en train de construire soit quelque chose qui reste.
Բայց ես այն ինչ որ կառուցում ենք մնա։
Alléluia! Amen! Et ça nécessite de prendre un chemin.
Եվ այն հայտը շտամի ճանապարհով գնալ։
Un chemin où nous devons laisser des choses. Où nous devons abandonner des choses. Où nous devons comprendre des choses. Comprenez que lorsque Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte, il leur a dit, ben, moi j'ai un pays qui est promis pour vous, mais il
ne
les a pas téléportés de l'Égypte dans le pays promis. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu un chemin. Et le chemin, ça aurait pu mettre 8 jours pour y arriver. Mais ils ont mis 40 ans pour y arriver. C'est ça qui est dramatique dans la vie des hommes et des femmes, parfois dans l'église.
C'est
qu'il y en a qui arrivent à ce bonheur, à cette restauration, à cette guérison complète. Rapidement. Et d'autres, ça va mettre des années. Parce qu'il y a des clés qu'ils n'ont pas comprises. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas laissées. Parce qu'il y a des liens qui sont là, il y a des dépendances. Il y a des péchés. Il y a de l'amertume. Il y a un passé qui finalement nous fait agir d'une façon que c'est pas nous. Et on a vu ça la semaine dernière, que nous sommes nés à l'image de Dieu, mais que l'homme est une victime de la guerre entre Dieu et Satan. Et Satan, en attaquant l'homme, a voulu attaquer Dieu. Et quand Dieu a vu ça, il est venu lui-même. Dieu s'est fait homme. Et il est venu restaurer l'image de sa créature. Alléluia! Et vous êtes nés, pas pour subir les choses, mais pour dominer. Vous êtes nés pour vivre la joie et la paix de Dieu. Comme Dieu l'avait créé dans le jardin d'Éden. Il est venu restaurer le monde et notre vie. Et nous avons vu la semaine dernière que la première étape, ben, c'était nous. Nous avons réalisé que la première étape de ce grand processus de restauration du temple commence par nous, ensemble. On a vu que seul, on ne pouvait pas y arriver. La preuve, c'est que si tu es toujours dans ces problèmes-là, c'est parce que ben, tu essaies de t'en sortir seul. Donc c'est considérer qu'on a besoin de quelqu'un. C'est admettre, c'est s'avouer vaincu. On a vu aussi cette clé que ben, on était impuissant de nous-mêmes. Moi, je peux essayer de diriger ma vie. Mais que c'est quand finalement je considère que tout ce que je fais, ben, ça, c'est que de l'impuissance. J'y arrive pas de toute façon. Donc je dois m'abandonner à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, eh bien, je m'abandonne à Dieu. Je me livre à Dieu. Je
ne
combats plus avec mes propres forces. Et ça nous a amené à décider de confier notre vie à Dieu. Et c'est cette clé ce matin que nous allons développer. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, nous lisons ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Արդյոք դեզ երբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենթանի զոհմը, Սուրբ Աստծո հաճելի եւ ձեր բանավոր պաշտոնը.
Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant.
Ձեր մարմինները տվեք ոնց որ կենթանի զոհ.
Amen. Il n'est pas question ici, là, de se mettre sur un feu et de se faire brûler.
Ce n'est
pas ça du tout. L'image qui est donnée, c'est celle, oui, effectivement, que dans l'Ancien Testament, on prenait un animal, on le mettait sur un autel et on le sacrifiait pour Dieu. Mais Dieu, dans la Nouvelle Alliance, nous dit, hey, c'est vos corps qu'il faut offrir comme ça, mais de façon symbolique. C'est offrez-vous, livrez-vous. Et quand vous offrez en fait un animal dans l'Ancienne Alliance, l'animal il mourait. Hein. Il était tué. Il était posé sur l'autel. Il était consumé par le feu. Il
n'y
a aucune résurrection. Et c'est de la même chose. Et ça, c'est vraiment la clé de ce matin. C'est comprendre que nous devons donner, livrer nos corps, nous abandonner, mourir à nous-mêmes. Le symbole est fort ici. Mais c'est si simple. En fait, c'est nous laisser faire. Dans la présence de Dieu. Nous laisser guider par Dieu. À offrir nos corps. Dites nos corps. C'est nos corps. Comme un sacrifice vivant. Saint et agréable à Dieu. Et ça va être de votre part, eh bien, un culte extraordinaire. Non. Raisonnable. Même là, le mot est très très fort. C'est raisonnable. C'est une question. Ça fait appel à simplement mon raisonnement. Je dois comprendre que offrir mon corps, offrir ma vie à Dieu, le laisser agir, le laisser guérir, eh bien, c'est quelque chose que je dois. Voilà, je dois me laisser faire. Je dois comprendre ça. C'est s'offrir à Dieu, c'est juste raisonnable. Et si nous mettons en pratique cette troisième étape, eh bien, c'est cette étape-là qui va commencer la transformation. Beaucoup de gens progressent à travers la première étape. Ils réalisent que seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Seuls, je ne peux pas être délivré de mes dépendances. Le tabac, l'alcool, la drogue, mon esprit colérique, ma méchanceté, ma mauvaise humeur, mon travail, tout ce stress que j'accumule, mon comportement, toutes sortes de dépendances avec le passé. Seul, je peux essayer d'y arriver, mais j'y arrive pas. Donc, ça, c'est la première étape. Je réalise que seul, je peux pas y arriver. Mais ils vont à cette deuxième étape que j'admets mon impuissance. Et puisque j'admets mon impuissance, alors, je suis amené à me confier en quelqu'un qui est supérieur à moi. À quelqu'un qui est plus grand que moi. À quelqu'un qui peut lui agir dans ma vie. Et beaucoup échouent à cette étape. Parce que c'est sans cesse entre... Il y a ce dilemme là où, oui, je l'admets, oui, je prends conscience que c'est Dieu qui peut diriger, mais je ne me livre pas totalement à lui.
Je suis
toujours en train de résister, en train de me mentir à moi-même. Est-ce que vous êtes déjà enlisé dans la neige? Ou dans la boue? Regardez là, cette pauvre dame, elle a les pieds dans la boue presque jusqu'aux genoux. Et son 4x4, il est totalement enlisé là.
Bon,
quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est vraiment pas facile. Vous pouvez essayer d'avancer, vous pouvez essayer de reculer. Tout ce que vous faites, c'est que vous salissez votre voiture. Vous vous salissez. Et le problème dans la vie, c'est ça. C'est tant que je vis avec mes dépendances.
Tant
que j'essaye de m'en sortir moi-même, j'y arrive pas. Je me
salis.
Le temple ne peut pas être rebâti. Amen.
Il y a
une autre photo qui vient juste après. C'est la neige. Regardez un peu la neige. Bon, j'ai pris cette photo. Enfin, j'ai récupéré cette photo-là. En fait, quand vous. Lui, il a essayé de s'en sortir. Tous les autres, ils ont capitulé. Il y a rien de déblayé tout autour de ces voitures-là, mais lui, il a essayé de déblayer puis essayé de s'en sortir. Il peut pas bouger. Là, il doit réaliser qu'il faut quelqu'un d'autre de plus puissant. Il faut un camion qui arrive là, qui déblaye, il faut quelqu'un qui arrive à le déblayer de là.
Moi, je
me souviens, il y a quelques années de ça, la sœur Sechka est en train de sourire, elle se souvient de ça. Il y a quelques années de ça, on est parti en Camargue. Et puis il y avait les plages de Camargue. Et puis on nous avait dit que qu'elles étaient vides. Et nous, ça nous intéressait parce qu'on voulait pas s'exposer devant tout le monde, tout ça. On s'est dit, tiens, on va aller là-bas, on va prendre du bon temps. Et puis on arrive là, effectivement, il y avait des plages, une plage de 15 km. Il n'y a presque pas de monde dedans.
Et on est
arrivé sur cette plage, sur le sable dur. Et on arrive là sur cette plage. Et puis la voiture était bien, elle roulait bien, il n'y a pas de problème. Et puis moi j'ai voulu un peu plus m'approcher de la mer, moi. Pour être juste au bord de la mer. Et puis finalement la voiture s'est enlisée. Et j'étais loin de la route. J'étais proche de la mer, mais bon. Puis là, bien sûr, j'ai essayé de m'en sortir tout seul. Des marches avant, des marches arrière. Un petit peu sur le côté. Et puis, allez, vas-y, Sechka, pousse. Mais pousse. Et ma pauvre petite épouse était là derrière. Essayait. Ah là 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 là. Et finalement, on a dû réaliser qu'on a dû appeler quelqu'un d'autre. Il a fallu l'aide de quelqu'un d'autre pour nous aider à pousser et à sortir la voiture de là. Et c'est ça cette étape. C'est capituler. C'est arrêter de faire des avant, des marches arrière. C'est arrêter de faire ça. Mais c'est vraiment se livrer à Dieu. Maintenant, quelle que soit la bonne volonté, parce que le dilemme c'est ça, c'est que le problème avec ma vie, avec nos vies, avec nos dépendances, c'est qu'on est finalement bon, on a une bonne volonté. Chaque année on prend des bonnes résolutions.
Oh,
cette année, ça y est, je décide, je fais régime. Cette année, c'est décidé, je me mets au sport. Oh, cette année, moi j'apprends un instrument. Cette année, j'arrête ceci, j'arrête cela. Cette année, je vais m'engager par les eaux du baptême. Cette année, je vais changer de comportement. Cette année, je vais moins travailler. Je vais m'occuper plus de ma famille. Mais il y a plein de bonnes résolutions. Puis finalement, on n'y arrive pas. Et vous savez pourquoi? Parce que ça nous diminue. Ça nous diminue de ne pas y arriver, de comprendre que seul on ne peut pas y arriver. J'ai lu les extraits d'un livre sur les alcooliques anonymes. Et pour les alcooliques anonymes, il était dit combien il était difficile pour eux de se sortir de là parce qu'ils souffrent, alors c'est un mot, c'est de l'égomanie, c'est, ils sont centrés sur eux-mêmes avec un complexe d'infériorité. Ils voudraient s'en sortir, ils veulent s'en sortir, mais ils ont ce complexe d'infériorité qui fait que s'ils admettent que seuls ils ne peuvent pas s'en sortir, ça les conforte dans l'idée qu'ils sont inférieurs aux autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils se mettent à boire parce qu'ils sont tellement dans la dépression, ils sont tellement dans la déprime, ils se sentent inférieurs. Ils se sentent moins que quelqu'un d'autre. Et à cette étape-là, accepter que seuls ils ne peuvent pas s'en sortir, pour eux, c'est difficile. S'avouer vaincu, c'est s'avouer perdant. C'est confirmer pour ceux qui sont dépendants leur profonde mésestime d'eux-mêmes. Mais moi je crois que de temps en temps il faut arriver à perdre la face. Il faut accepter que de s'avouer vaincu. Comprendre que finalement on peut perdre une fois de temps en temps. Bon, moi c'est pas très très grave, mais maintenant, avec mes enfants, face à la, quand on est sur une console de jeu, ben, je perds. Et j'ai réalisé que, bien que je sois leur père, ben, ils étaient meilleurs que moi. Et vous savez quoi? Ça a été difficile à admettre pour moi. J'ai pas pleuré, hein. Mais c'est tellement bon, mais je ne suis pas mort. Vous comprenez? On ne meurt pas de s'avouer vaincu. On ne meurt pas de dire hey, il est meilleur que moi, mon fils. Elle est meilleure que moi, ma fille. Ce frère, il est mieux. Avouez que finalement quelqu'un est mieux que moi. On ne meurt pas de ça. On ne meurt pas de cette chose-là. Perdre la face, c'est vrai que c'est comme un sentiment d'humiliation. Mais si vous voulez ne pas être humilié, il vaut mieux s'humilier. Vous comprenez ce que je dis là? C'est la différence entre l'humiliation et l'humilité. Je dois admettre que oui, seul je peux y arriver, je dois tout abandonner à Dieu. C'est ça l'humilité. C'est ça se s'offrir à Dieu, amen, en sacrifice vivant. Comprenez que pour quelqu'un, pour un adulte, au début de cette réunion, on me dit, pasteur, moi j'ai été baptisé quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, ou je sais plus quel âge. J'ai plus de 60 ans, et je veux m'engager moi par les eaux du baptême. C'est quoi, pour arriver jusque là, il faut de l'humilité. Il faut comprendre que finalement, oui Seigneur, je comprends, je capitule. Et dans notre vie, c'est ça qu'il faut faire pour sortir de nos dépendances. Cette troisième étape là de ce chemin du bonheur, c'est quelque chose qui est vital. Je dois comprendre que je dois m'humilier pour éviter l'humiliation.
Hein?
Est-ce que vous avez remarqué que les gens humbles ne sont jamais humiliés? Mais que ce sont les orgueilleux qu'ils sont. Un peu comme un gars qui veut sortir tout seul dans le sable. Avouer son incapacité, c'est croire en quelqu'un d'autre. Et ça constitue des pas de géant. Alléluia. Alléluia. Quand j'en arrive à comprendre que pour gagner, je dois m'avouer vaincu et me décharger sur Jésus, alors j'ai la paix. Alléluia! Amen! Je peux mourir de mon péché. Je peux mourir de mes dépendances. Amen! Et si on ne meurt pas de s'avouer vaincu et dépendre de Dieu, alors on n'y arrivera pas. Je dois faire mourir la chair qui est en moi.
Je
dois arriver à faire mourir les sentiments charnels qui sont en moi. Je dois faire mourir tout ce qui est tellement charnel et tellement dans mon raisonnement à moi. Et m'offrir à Dieu, offrir mon raisonnement à Dieu. Amen. Cette étape-là, c'est l'étape cruciale des 12 étapes. C'est le moment où finalement on décide d'abandonner et de changer.
La
diapo 6 nous dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi la vie pour que tu vives. Toi et ta descendance. Le choix est là. Dieu, il dit, moi je veux que tu vives. Mais je mets ce choix devant toi. Ton mari ne peut pas décider pour toi. Ta femme ne peut pas décider pour toi. Tes enfants ne peuvent pas décider pour toi. Tes amis ne peuvent pas décider pour toi. Même Dieu ne peut pas décider pour toi. Si tu veux changer de vie, ça dépend de toi et de toi seulement. C'est maintenant qu'il faut décider. Et ce choix-là va changer ta vie et ta descendance. Toi et ta descendance. Alléluia. Et ça commence aujourd'hui. Le livre là sur les alcooliques anonymes, en fait, c'était ce livre-là, c'était demain, j'arrête de boire. Demain, j'arrête de boire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Demain, j'arrête de fumer. Demain, je vais décider de faire quelque chose. Demain, je vais pardonner. Mais il me faut un petit peu de temps, tu sais. Mais demain, moi, je vais. Demain. C'est comme chez le coiffeur. Demain, on vous coiffe gratuit. Et puis vous venez demain, et puis c'est toujours demain.
Mais
en fait, on comprend, on admet qu'on doit changer. Mais quand est-ce qu'on va décider là?
Oh.
Quand est-ce qu'on va tourner en rond? Pendant combien de temps on va essayer d'avancer, de reculer, sans jamais décider pour Dieu de changer de vie, de rompre totalement, de faire mourir ma chair totalement, de me livrer totalement à Dieu. Dieu dit, hey, moi j'ai pour toi la vie. Moi, c'est pas des projets de mort que j'ai, c'est des projets de vie. Alors sur ce chemin maintenant là, tu t'avoues vaincu, t'avoues ton impuissance, et ben donne-moi ta vie maintenant. Le choix, et ce choix, c'est un choix qu'on doit faire maintenant. C'est maintenant qu'on doit choisir. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Parce que entre le désespoir du passé, votre vie passée, entre les ruines qui ont été mises dans votre vie, entre les fissures de vos cœurs, entre les déboires de votre vie, les déceptions que vous avez eues, tout ce qui concerne votre passé et votre avenir, il y a le moment clé là, c'est aujourd'hui. Et ce aujourd'hui, vous pouvez le placer là, mais pourquoi pas maintenant. Tant que je comprends pas ça, tant que je décide pas ça, eh bien mon avenir est toujours suspendu dans les plans de Dieu quelque part.
Et
ils ne peuvent pas être libérés.
Alors
je peux venir à l'église.
Et
je peux venir avec mon passé. Je peux venir avec mes déboires. Je peux venir toujours, mais sans être guéri. Mais c'est quoi? Les plans de Dieu ne vont pas se réaliser dans votre vie. Vous n'allez pas jouir de la toute puissance, de toute la vie abondante que Dieu a pour vous tant que je n'ai pas passé cette clé-là. Et je crois que maintenant, là, certains commencent à réaliser que, oui, que la restauration, c'est un chemin, finalement. Dieu a pour vous des rêves. Vous devez être épanoui. Et vous savez ce que fait cette série, moi, à moi-même?
Ben,
moi, c'est qu'elle me ramène à mes propres erreurs. Elle m'aide à me comprendre moi, à comprendre ce que je suis aujourd'hui, et pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Et j'ai réalisé avec cette étude qu'il y aurait pu y avoir des changements plus rapides si j'avais lâché certains péchés plus tôt. Si j'avais pardonné plus tôt, si j'avais vraiment lavé mon cœur et ma conscience, mes pensées plus tôt, et tant que ces choses-là me rongeaient, finalement, je n'étais pas heureux. Je vivais des moments heureux dans l'église, dans la louange, dans l'adoration. Mais dès que j'étais confronté à des personnes ou à des situations ou à un passé, ça ressurgissait et ça m'affectait. Dieu veut que tu vives. Et ta décision, ce qui est formidable dans les plans de Dieu, c'est que ta décision va changer ta vie, mais aussi la vie de ton entourage. La décision de Josué a changé toute sa destinée, toute sa famille, toute sa génération. Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Et lui, il est rentré dans le pays promis.
Alors que
ceux qui ont dit non, on ne peut pas le faire, ils ne sont pas rentrés. Ma décision va bénir ma famille. Parce que si je rentre plus tôt à la maison, si je parle mieux à ma femme et à mes enfants, si j'arrive à être libéré de mes passions, de mes dépendances, l'atmosphère à la maison va changer. Et alors, l'amour va être encore plus répandu là. Amen. Ma décision transforme les choses. Et c'est pareil dans l'autre sens. Le drame, là, j'ai écouté cette semaine quelqu'un qui prend une voiture qui était sous.
Il transportait
4 personnes avec.
Il a
fait un accident. Il a tué une famille. Il a tué des amis. Et finalement, c'est des familles qui sont affectées là par la mort. Dedans, vous avez des orphelins qui seront affectés dans leur vie familiale plus tard. Et qui vont reproduire des blessures dans leur vie parce qu'ils auront grandi avec ça. Et finalement, ce que l'on vit là, ça affecte beaucoup de monde. Et en fait, c'est une chaîne comme ça. Mais dans ma décision de servir Dieu, c'est la même chose. Quand je décide de rompre avec le passé et avec le péché, il y a aussi une influence qui est bénéfique pour mon entourage. Il s'agit maintenant de trancher. En fait, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis, en fait, le terme hébreu, c'est tranche.
C'est
quelque chose qui est comme ça et tu le coupes en deux, c'est tranché.
Voilà,
il y a une partie, c'était avant, et il y a une autre partie, c'est après. C'est décidé. C'est une ligne de démarcation entre le passé et le futur. Donc la décision, c'est celle-ci. Est-ce que je vais continuer à vivre ce style de vie toute ma vie, sans décider? Est-ce que je vais rester toujours accroché à mes comportements, mes gestes, mes conduites pendant longtemps comme ça? Est-ce que je vais continuer à souffrir ainsi tout le temps?
T'es
pas obligé de souffrir comme ça.
T'es
pas obligé de faire souffrir les autres non plus. T'es pas obligé de faire souffrir tes enfants, ta femme, ton entourage. Et vous les entendez parfois, ils vous le disent, quand est-ce que tu arrêtes de faire ça?
Ça
fait de la peine, tu sais, quand tu fais ça, quand tu dis ça. Est-ce que vous allez continuer à souffrir comme ça longtemps? À résister toujours? À combattre avec vos propres forces? C'est pas ça la vie. La vie, une vie comme ça, ça fatigue. Une vie comme ça, ça vous enlève votre énergie. Il y a des personnes qui disent, mais pasteur, mais comment tu fais? On apprend à se décharger sur Dieu. Alléluia! Amen! Et on a la vie de Dieu! Vous savez quoi? Il y a des piles, vous pouvez les recharger, au bout d'un quart d'heure, elles sont déchargées. Ça vous dure deux mois. C'est la capacité dont vous avez à gérer la puissance, à votre vie là, à dépendre de Dieu, c'est ça qui change les choses. À mettre plus Dieu en avant et le moi, ma chair, en arrière. Maintenant, personne ne peut décider à ma place. La prise de conscience de notre incapacité, ça c'est l'étape 1. La réalisation de l'existence de Dieu, l'étape 2, doit m'amener à cette décision, c'est de tout abandonner à Dieu. Et là, je vous montre cette photo là. Une photo, voilà, de personnages qui dansent. C'est le cha-cha-cha.
Cha-cha-cha,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vous rêvez que je le fasse. Alors je vais le faire.
1,
2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Tcha, tcha, tcha. Voilà. Tcha, tcha, tcha. Voilà. Et souvent, il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne comme ça.
1, 2, 3. 3, 2, 1.
1, 2, 3. Oui, alléluia. Allez à la maison. Alléluia!
Alléluia!
Allez dans mes problèmes.
Knank problem image.
Le cha-cha-cha.
Cha-cha-cha.
Voilà, c'est maintenant qu'il faut décider. Décider de passer cette étape. Alléluia. C'est faire confiance à Dieu. Imaginez cette personne qui est là en haut d'une maison. La maison est en flammes. Elle est au bord de la fenêtre. Et puis là, il y a les pompiers qui sont en bas. Ils ne peuvent pas monter, ils n'ont pas l'échelle. Par contre, ils ont un grand drap là. Ils ont quelque chose de grande plateforme tendue. C'est pas un trampoline, c'est un grand drap. Et ils sautent. Et il y a la personne qui dit, ben là, je suis là, Là, je tiens encore quelque chose, là. Là, je tiens la maison. Il y a le feu, mais je tiens encore la maison. Mais combien de temps tu vas rester comme ça? Est-ce que tu vas brûler comme ça? Est-ce que tu vas finir ta vie en enfer, dans les flammes, comme ça? Non! À un moment, il faut que je me jette dans les bras de Dieu.
Tu vas
sauter, je dois faire confiance. Maintenant, il y a ce petit moment où je suis dans le vide, là. Mais c'est ça qu'on appelle la foi. Foi, c'est croire, c'est se livrer à Dieu. La confiance, donc confiance, il y a fiance, c'est la foi, c'est ça, c'est avoir foi en Dieu. Maintenant, moi, je connais le cœur humain. Étant moi-même humain depuis quelques années, je peux vous dire ce qui se passe dans le cœur humain. C'est qu'on négocie tout le temps avec Dieu. On veut toujours avoir une garantie. Je te donne ça, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment je peux me confier totalement en Dieu? Est-ce que je dois m'humilier totalement? Vous savez quoi? Ça, c'est votre choix à vous. C'est ce choix-là que moi, je ne peux pas faire. Mais c'est cette clé qui est si importante. Il y a cette personne qui avait un rêve. Elle se voyait accrochée à une paroi au bord d'un précipice. Elle était accrochée là.
Et puis
là, il y avait le précipice. Et puis là, à 2 mètres là, il y avait la main de Jésus. Jésus était là de l'autre côté en disant, donne-moi ta main. Mais pour donner la main, il fallait lâcher la paroi.
Alors,
soit tu t'accroches, soit tu donnes la main. C'est ça le pas qu'il faut faire. Et vous ne pouvez pas faire l'un ou l'autre. Vous
ne
pouvez pas prier, Seigneur, rallonge mes bras. Seigneur, fais-moi vivre les deux. Fais-moi vivre mondainement. Fais-moi vivre avec ma vie charnelle. Et fais-moi vivre spirituellement. Non, les combats. Les épreuves que les chrétiens vivent et que les hommes et les femmes vivent, il est dans ce problème-là entre résister à Dieu et aimer son péché.
Et
finalement, refuser de voir ce qui nous fait mal. Et refuser de voir que je dois être guéri de telle ou telle chose. Et si je ne lâche pas ça,
j'avance
pas. C'est ça, confier sa vie. Diapo 8 nous dit, celui qui aura gardé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est le principe de la vie de Dieu, ça. C'est que même pour que tu puisses avoir du maïs, il faut que la graine de maïs, elle meure en terre. Il faut que la graine, elle meure. Si la graine ne meurt pas en terre, elle ne porte pas de vie. Si je ne meurs pas à moi-même, je ne porte pas de vie. Je dois tout donner à Dieu. Voilà pourquoi il est dit, prenez mon joug. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est ça que tu dois faire. C'est recevoir les instructions de Dieu. C'est prendre la parole de Dieu et la vivre. Amen. Ne rien enlever, ni dans l'ancien ni dans le nouveau, mais c'est la garder totalement. Parce que toute la parole de Dieu est une instruction pour notre vie. Et ça nécessite que je sois doux et humble de cœur. Vous voyez qu'on retrouve ici l'humilité là.
Hein?
Et l'humilité amène le repos. Le repos pour vos âmes. C'est pas ce que vous cherchez.
C'est
pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on veut là. On veut être heureux. Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre, Seigneur. Alors le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent.
Hein?
Vous vous souvenez ce qu'on a lu là, Romains chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors comment on fait ça? Eh bien, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent va vous amener des pensées du monde. N'oubliez pas qu'on est dans un monde corrompu par le péché. C'est pour ça qu'il y a des modes qui sont dégradantes. C'est pour ça que dans l'église, on va parler de sobriété. Mais même pas dans l'église, c'est dans la parole de Dieu, tout simplement. Amen. On parle de sobriété. On parle d'amour. On parle qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Mais on va être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Plusieurs disent, moi je cherche la volonté de Dieu. Comme s'ils cherchaient quelque chose de matériel. Finalement, j'ai trouvé la volonté de Dieu. Oui, elle était là, cachée là. Non, la volonté de Dieu, c'est simple, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est faire ce qui est bien. C'est livrer sa vie à Dieu. C'est s'humilier, c'est arrêter de résister à Dieu. Arrêter de résister à la parole de Dieu. Quand on résiste à la parole de Dieu, vous savez quoi, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Moi, je disais à mes enfants, je ne sais pas où vous dévoilez, mais enfin, vous avez tous des enfants, enfin, ou la plupart, vous savez que parfois les enfants font des choses pas bien. Et puis, je dis à mon enfant, là, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Comment tu te sens? Je me sens pas bien.
Ah.
Et c'est pour ça que tu vas pas bien. Maintenant, rectifie ça. Maintenant ça va, c'est comment maintenant? C'est bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. Est-ce que ça va bien là? Voilà. C'est si simple. Quand je fais le bien, je me sens bien. Et je vais bien. Quand je fais mal, je me sens mal. Et je vis mal. Alors quand est-ce que je vais être soumis? Quand est-ce que je vais me livrer à Dieu? Quand est-ce que je vais m'humilier devant Dieu? Quand est-ce que je vais offrir mon corps comme un sacrifice vivant? En disant, Seigneur, c'est vrai, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est agréable. C'est ça qui est parfait. Peu importe. Moi, je vais obéir, je vais me livrer. Vous allez voir le poids qui va partir. Ça va être comme un chou, vous allez sentir léger là. Et finalement, c'était même pas besoin de faire régime, je me sens léger. Ah, je suis bien. Alléluia. Amen. Et là, Dieu va commencer à opérer dans votre cœur une œuvre merveilleuse. Alléluia. Amen. Amen. Et ne revenez pas en arrière. Parce que vous êtes le temple. Vous êtes destiné à être le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Dieu vous a créé pour ça. Quand vous donnez votre vie à Dieu, ne revenez pas là-dessus. Si vous vendez votre maison, et puis 6 mois plus tard, vous revenez. Vous revenez dans la maison que vous avez vendue. Et puis vous arrivez là, puis vous dites, non, attends, lui, qu'est-ce qu'il a fait là? J'avais les volets qui étaient rouges et les amis bleus. C'est pas normal. Regarde le jardin, j'avais planté plein d'arbres. Il a fait des potagers. Il a changé toutes les fenêtres. Et puis vous rentrez à l'intérieur. Puis vous voyez qu'il a changé toutes les peintures. Non mais qu'est-ce que t'as fait là? Non mais regarde un petit peu là. Et là, la personne dit, mais attends, j'ai le papier, tu me l'as vendu. Maintenant, c'est à moi. Je fais ce que je veux. Parce que c'est ma maison maintenant. Amen. Et quand vous donnez votre vie à Dieu, laissez-le faire dans votre vie. Laissez-le vous transformer. Alléluia. Et dites pas, c'est à moi. Ne dites plus c'est à moi. Mais laissez-le vous transformer. Voilà pourquoi, dans la reconstruction du temple, les anciens de Babylone sont arrivés dans cette ville de Jérusalem. Ils sont arrivés à cet endroit-là. Et là, ce qu'ils avaient à cœur, la mission qu'ils avaient, c'était de rebâtir le temple. Mais avant de rebâtir le temple, avant de mettre pierre sur pierre et de rebâtir ce temple, la première chose qu'ils ont fait, ils ont bâti un autel. Sans bâtir un autel, le temple ne peut pas être bâti. Est-ce que vous comprenez vraiment le sens de ce message ce matin? C'est que souvent on veut reconstruire le temple, on veut changer de vie, mais Mais où est l'autel de Dieu dans notre vie?
Où est-ce,
à quel moment on s'est vraiment totalement abandonné, livré à Dieu? On a tout laissé. Quand est-ce que tout a été consumé en nous? On doit dresser un autel. Dresser un autel. Brûler ce qui n'est pas bon. C'est ce qu'ils ont fait. Un autel pour la fête.
Oh,
alors là, la Bible nous dit, et on a lu, rétablir l'autel sur ses fondements.
Il n'y
a pas d'autres fondements sur les fondements originels.
Il n'y
a pas d'autres fondements à savoir Christ.
Christ,
c'est la pierre angulaire du temple. Christ est l'agneau qui a été immolé. Fils de Dieu immolé pour les hommes. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il
n'y
a pas d'autre fondement que ça. On doit se conformer à cette vie. On doit brûler en Jésus-Christ toute cette vie de charnel. Rétablir sur ses fondements.
Et
ils ont offert des holocaustes à Dieu. Le matin, le soir, des actions de grâce pour le remercier. Et aussi pour que les péchés soient pardonnés. Alléluia! Et c'est ça qu'il doit y avoir dans notre vie. Chaque jour, il doit y avoir cet autel rebâti. C'est ça, livrer nos corps comme un sacrifice vivant. C'est tous les jours. Là, il faisait le matin et le soir. C'est le matin et le soir qu'on doit prier. C'est le matin et le soir qu'on doit se livrer à Dieu.
Ah,
mais c'est un changement radical. C'est ça, brûler notre vie. C'est ça, rétablir l'autel. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fête des holocaustes. La fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'était une fête qui durait une semaine. Et c'était une fête qui était là pour commémorer la vie qu'ils avaient dans le désert. Ils se rappelaient de ce qui s'était passé dans le désert. Le moment où ils étaient dans les tentes. Dans les tabernacles. Voilà, c'était ça la fête des tabernacles. Donc il y avait comme une mémoire. Oui, j'avais une vie passée là. Mais maintenant je fais la fête. Parce que ma vie a changé. Alléluia, il y avait une fête qui était là. Et ma prière, c'est que votre vie soit cette fête. Dieu veut que vous offriez votre corps comme un sacrifice vivant. Pas pour vous humilier. Mais pour vous élever, pour que vous soyez en fête avec lui.
Alléluia!
Amen! C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est s'abandonner à Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Alléluia! Amen. Il rétablir l'autel sur ses fondements. Quoi qu'ils eussent à craindre, les peuples du pays. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel. Les holocaustes du matin et du soir. Et ils célébrèrent la fête des tabernacles. Comme il est écrit. Et ils offrirent jour par jour des holocaustes. Selon le nombre ordonné chaque jour. Est-ce que vous voyez bien là aussi que c'est toute une démarche dans la reconstruction? C'est jour par jour. Selon le nombre ordonné chaque jour. Aujourd'hui c'est un jour, aujourd'hui c'est une étape. Mais c'est une clé importante pour vous. C'est de décider que maintenant vous allez arrêter de faire ce que vous avez fait. C'est maintenant qu'il faut que ça change. Vous devez décider maintenant. Seigneur, tous ces déboires dans ma vie. Seigneur, je vais être libéré de tout ça. Je vais arrêter de me faire du mal. Je vais arrêter de m'enliser, d'avancer, de reculer. Sans jamais finalement trancher totalement. Seigneur, je vais suivre. Je vais être soumis. Je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je
ne
vais pas me conformer à aucune mode.
Il
n'y a aucune influence mondaine.
Parce
qu'on sait qui est dans le monde. Mais on veut faire ce qui est bon. Ce qui est agréable. Ce qui est parfait. Ce qui est saint. Ce qui est bien. Seigneur, je veux me livrer à toi. Seigneur, je veux me livrer à toi. Seigneur, aide-moi à ne plus raisonner par moi-même. À ne plus négocier. Seigneur, je connais mon cœur maintenant.
Vous
savez que je négocie tout le temps. Je ne me livre pas totalement à toi. Je retiens toujours. Seigneur, je suis en colère parfois après toi. Seigneur, j'ai des mauvais sentiments dans ma vie. Seigneur, je vais arrêter tout ça. Seigneur, je vais m'abandonner, Seigneur. Je vais arrêter d'être en colère. Je vais arrêter d'essayer d'arranger les choses moi-même. Mais Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, libère-moi de ce poids. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse élever nos mains ensemble. Peut-être que plusieurs ont besoin de prières ce matin. Amen. Vous pouvez vous avancer et puis on va en prier ensemble. Amen. Et ensemble ce matin, on va prier pour vous aider à franchir ce pas, à franchir cette étape. Amen. À vous humilier devant Dieu, à accepter que finalement vous avez besoin d'une puissance supérieure. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Amen. C'est de Dieu dont vous avez besoin. Et on va être là pour vous aider aussi, pour vous soutenir. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, on va être là pour vous aider. On va être là pour parler avec vous. Pour vous aider à vous reconstruire. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu languit. Dieu a soif de vous voir revivre. Alléluia. Dieu a soif que vous soyez libérés. Je prie dans mon cœur que ce matin vous puissiez être renouvelés de la puissance du Saint-Esprit. Renouvelé d'une puissance. Dieu veut venir avec cette puissance et commencer à sceller le fondement de l'autel des holocaustes. Livrez, quand vous vous approchez ici devant, ou quand vous priez dans l'église, fermez vos yeux sincèrement. Priez sincèrement des paroles vraies. Et dites, Seigneur, je livre ma vie. Je te donne ma vie. Je lève mes mains. Je lève ma voix. Je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, je me donne totalement. Je ne vais plus essayer de m'en sortir tout seul. Seigneur, je capitule et je te laisse faire. Alléluia. Amen. Fermez vos yeux tous. Amen. Ce matin, s'il vous plaît. Et louons le Seigneur. Que toute l'église loue le Seigneur. Amen. Et priez des paroles sincères ce matin. Alléluia. Et pour ceux qui ont à cœur de venir prier pour quelqu'un ici devant, venez le faire. Venez prier. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Priez, amen, avec quelqu'un pour les soutenir dans la prière. Ils ont besoin de vous. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.